je vais passer la parole à votre docteur François Février, qui est de Nîmes. Mobilisation et rééducation précoce en service de réanimation ou post-réanimation.
Bonjour à tous. Je remercie l'association Alice de m'inviter pour vous parler de la rééducation précoce en réanimation. Donc, je travaille au sein du CHU Nîmes et de Montpellier. Alors, les problèmes liés à la réanimation sont dus à l'alitement prolongé et aux complications du décubitus des patients. Avec, on retrouve également une atrophie musculaire évaluée à 2% par jour, une diminution des capacités respiratoires de 0,9% par jour, une déminéralisation osseuse avec une perte d'environ 2% de la masse osseuse par mois et l'augmentation de la fréquence cardiaque pour maintenir une VO2 stable. Les patients présentent souvent un état de délirium, c'est-à-dire un état d'agitation et de confusion chez plus de 75% des patients en réanimation. Et les séjours prolongés entraînent des troubles neuro-orthopédiques avec des déformations ostéotendineuses qui entraînent ensuite des problèmes cutanés, des douleurs, des difficultés à l'installation. Chez les patients souvent ventilés, présentant généralement des sepsis, on retrouve des atteintes périphériques, des polyneuromyopathies de réanimation qui sont des atteintes neurologiques périphériques avec un déficit moteur et sensitif surajouté. Chez les survivants des services de réanimation, on retrouve le post-intensive care syndrome ou le intensive care unit acquired weakness qui est présent environ chez 25 à 60% des patients sous ventilation mécanique, comme le montrait le professeur Griffiths en 2010. Ceci résulte en des capacités d'exercice affaiblies, une qualité de vie suboptimale, des troubles neuropsychologiques durables, surtout chez les patients ayant présenté une phase de délirium au cours de leur séjour en réanimation. Et ceci entraîne des coûts élevés d'utilisation du système de santé, des réadmissions hospitalières et un taux de mortalité prématurée augmenté. Comme le montrait déjà en 1995 le professeur Griffiths, ancien chef de service de réanimation à Liverpool, l'impact de la réanimation sur le catabolisme du muscle squelettique. Vous voyez ici des biopsies du muscle au niveau des cuisses et vous voyez ici une atrophie dès 7 jours d'immobilisation en réanimation. Alors qu'est-ce que la rééducation en réanimation? Dans la littérature, on retrouve plein de définitions. Davis, en 2013, proposait un programme de mobilisation en réanimation des patients souvent sous ventilation et capables de participer à la rééducation avec un état hémodynamique stable et recevant des niveaux acceptables d'oxygène. On voit que cette définition est limitée car elle ne prend pas en compte tous les patients avec une atteinte motrice ou les patients sédatés et les patients avec des troubles de la conscience. Donc cette définition de la rééducation précoce en réanimation reste à définir par des études ultérieures. Alors, la mobilisation précoce en réanimation a montré plusieurs bénéfices dans la littérature. On retrouve une amélioration de la force musculaire et une diminution de la dépendance fonctionnelle, des réductions de la durée de ventilation mécanique et du séjour en réanimation et de la durée du séjour à l'hôpital, la réduction de l'incidence de cet état de confusion et d'agitation qu'est le délirium, la réduction du taux de réadmission et de mortalité à un an, et la mobilisation des patients dans le coma pourrait, selon Seale et ses collaborateurs, stimuler le réveil. La plupart de ces études sont portées chez des patients qui n'ont pas d'atteinte neurologique. Il y a très peu d'études sur la rééducation précoce de patients avec atteinte neurologique initiale. Le professeur Griffiths avait réalisé une étude en 1995 pour montrer le bénéfice de la mobilisation passive continue sur le muscle, sur les fibres musculaires. Chaque patient séjournait en réanimation et chaque patient était son propre témoin. C'est-à-dire qu'une jambe bénéficiait de la mobilisation passive continue et l'autre jambe était restée immobile pendant 7 jours et on constatait une augmentation des fibres musculaires sur la jambe ayant bénéficié de la mobilisation passive continue. Vous voyez la conservation des fibres au bout de 7 jours à droite, et la jambe contrôle qui ne bénéficiait pas de mobilisation passive continue. On retrouvait une atrophie des fibres musculaires avec une perte de 35% et il y avait moins de pertes protéiques avec la mobilisation passive continue. Et il y avait principalement une préservation des fibres musculaires de type 1. Burtin et ses collaborateurs, en 2009, ont montré l'intérêt de l'utilisation de cycloergomètres, c'est-à-dire de vélos avec motorisation, en réanimation. C'était une étude réalisée sur 90 patients. 45 patients bénéficiaient d'un programme de rééducation avec cycloergomètre. 45 patients bénéficiaient d'une kinésithérapie standard, dite standard. Il rapportait seulement un événement indésirable qui était une rupture du tendon d'Achille chez un des patients. En moyenne, les patients bénéficiaient de 7 séances de pédalage au cours de cette étude. Leur critère de jugement principal, c'était le test de marche de 6 minutes, c'est-à-dire quelle est la distance réalisée par le patient en 6 minutes à la sortie d'hospitalisation. Et cette distance était plus importante, 196 mètres, dans le groupe ayant bénéficié du cycloergomètre comparé au groupe ayant bénéficié de la rééducation standard. Et on constatait également une meilleure récupération de la force au niveau des quadriceps à la sortie du service de réanimation. Il n'y avait cependant pas de différence significative sur l'équilibre à la marche. Alors pour les patients ayant une atteinte neurologique initiale, il y a très peu de littérature à ce sujet sur la rééducation précoce en réanimation neurologique. Tisworth, en 2012, montrait que l'implantation d'un programme de rééducation précoce permettait de réduire la durée du séjour dans l'unité neurovasculaire et au sein de l'hôpital, de réduire les infections nosocomiales et les pneumopathies liées à la ventilation. Il n'y avait pas d'augmentation d'effets indésirables liés à ce protocole de mobilisation. Rand et ses collaborateurs, en 2015, ont montré que une augmentation de la distance de marche suite à l'implantation d'un programme de rééducation chez des patients victimes d'une hémorragie intracérébrale ou sous-arachnoïdienne aiguë. Ces protocoles de mobilisation entraînent également des bénéfices financiers pour les hôpitaux. Lord et ses collaborateurs, en 2013, ont montré que l'augmentation du nombre de kinésithérapeutes, bien qu'elle augmentait des réallocations des ressources financières au sein de l'hôpital, permettait de réduire les coûts en réduisant en fait la morbidité des patients et du coup les réadmissions hospitalières. Maurice et Needham, en 2008 et 2009, ont montré que la création d'une équipe dédiée à la mobilisation précoce en réanimation et l'implantation d'un programme de mobilisation précoce permettait de réduire la durée de séjour en réanimation et à l'hôpital et donc réduire les coûts financiers liés au système de soins. Alors on va reparler du cycloergomètre. Parry et l'équipe de Parry en Australie a étudié en fait le cycloergomètre, ce vélo motorisé, couplé à l'électrostimulation. L'électrostimulation, c'est le fait de provoquer un courant électrique sur les muscles afin d'entraîner leur contraction via des électrodes. Ils ont évalué la sécurité et la faisabilité de ce protocole de rééducation chez 16 adultes en unité de soins intensifs, séjournant plus de 4 jours, souvent dans un contexte de sepsis, d'infection, sous ventilation mécanique au moins plus de 72 heures. Il y avait 8 patients dans le groupe bénéficiant du cycloergomètre et de l'électrostimulation et 8 patients dans le groupe rééducation standard. Et il rapportait seulement un effet secondaire lié à l'utilisation de ce protocole avec ce cycloergomètre qui était un événement de douleur, l'apparition de douleur. 73% des sessions étaient complètement réussies et il y avait un gain de 3,9 points sur leur échelle de gain fonctionnel avec une récupération plus rapide et une durée de délirium plus courte dans le groupe ayant bénéficié du cycloergomètre couplé à l'électrostimulation fonctionnelle. Voici leur installation. Alors, ils utilisaient du coup le motomètre, le cycloergomètre que vous voyez sur la droite, qui est un cycloergomètre motorisé. Le patient peut l'utiliser en mode passif et se laisser entraîner par la machine, et on peut jouer sur les résistances, ou en mode actif si le patient a une commande motrice volontaire présente. Vous voyez les électrodes blanches sur le quadriceps, il y en a également sur les ischio-jambiers, et couplés les deux. Actuellement, ils sont en train de faire une étude pour montrer l'impact sur le muscle de ce système. Et cette étude se finira en juin 2017. Alors, l'étude de Paris n'étudiait pas les patients avec une atteinte neurologique. Donc, au sein de notre équipe, nous avons voulu étudier la sécurité et la faisabilité de l'utilisation du cycloergomètre en réanimation neurologique chez des patients cérébro-lésés ou blessés médulaires. Nous avons pour cela mesuré le nombre d'épisodes de désaturation en oxygène, les fluctuations de variation de la fréquence cardiaque et de la fréquence respiratoire, la survenue d'épisodes douloureux, et nous évaluons également le faciès du patient ou si celui-ci requérait l'arrêt des séances. Notre critère de jugement secondaire, c'était d'étudier la faisabilité de l'utilisation du cycloergomètre en réanimation et déterminer les raisons de sa non-utilisation dans notre unité. Évaluer les contraintes de temps liées à cette machine, évaluer du coup l'accès de la machine à ces différents modes au sein de notre service de neuro-réanimation. Donc cette étude a été menée au sein de la réanimation neurologique au CHU Guy de Chauliac à Montpellier, un service qui comporte 16 lits et une kinésithérapeute. Elle a eu lieu de mai 2015 à août 2015. C'est des patients adultes, cérébro-lésés ou blessés médulaires, ventilés ou non. C'était dirigé par une équipe multidisciplinaire avec un médecin MPR, un médecin anesthésiste réanimateur, un kinésithérapeute et l'équipe infirmière. Les patients bénéficiaient d'une rééducation standard avec le kinésithérapeute et de séances de cycloergomètre 20 minutes par jour, 5 jours par semaine. Voici notre installation avec Marguerite, notre kinésithérapeute. Vous voyez qu'il faut une chambre pas trop petite pour pouvoir utiliser ce genre de matériel. Donc on installe le patient peut être sédaté et intubé, et on peut utiliser quand même cette machine sous un mode passif. Les effets secondaires, donc par rapport à nos résultats sur la sécurité, les effets secondaires occasionnant une interruption de la séance étaient l'opposition du patient au cours de deux séances, la survenue de spasmes liés à la spasticité lors de trois séances, un épisode de bradycardie lors d'une séance, qui a été relativement court, la survenue de douleurs lors d'une séance, et les raisons d'arrêt total des séances de pédalage étaient généralement liées au transfert du patient dans un autre service dans 77% des cas, un décès d'un patient mais qui n'était pas lié à l'utilisation du cycloergomètre, la survenue d'une opposition du patient et une raison inconnue chez un patient. Concernant la faisabilité, on a réalisé 94 séances complètement complètes, sans interruption. Les patients ont bénéficié en moyenne de 7 séances au cours de leur séjour. Un patient a bénéficié de 32 séances car il avait séjourné 94 jours dans l'unité. Et le temps moyen de chaque séance était de 18 minutes, le plus souvent en mode passif. Et le temps moyen entre l'entrée et la première séance était de 31 jours, ce qui est un peu long, mais ça allait de 4 jours à un maximum de 67 jours après l'entrée. Donc les raisons d'incapacité pour le patient de réaliser une séance de cycloergomètre étaient pour la plupart du temps liées à la réalisation d'une artériographie cérébrale. C'est une imagerie où on va passer un cathéter jusqu'au niveau du cerveau pour visée thérapeutique ou diagnostic. Dans 17% des cas, c'était lié à un isolement infectieux à cause de la présence d'une bactérie multirésistante. Dans 17% des cas, c'était lié à la présence de cathéters artériels des cathéters artériels fémoraux ou des voies veineuses centrales, fémorales. Et dans 10% des cas, il y a une instabilité du patient. Donc les contre-indications que nous avons relevées à l'utilisation du cycloergomètre dans notre service de neuro-réanimation, c'était la réalisation d'une artériographie cérébrale récente dans 36% des cas, la survenue d'instabilité hémodynamique dans 10% des cas, et les contre-indications relatives et temporaires qu'on pourrait sursoir, c'était la présence de voies veineuses fémorales ou artérielles au niveau des membres inférieurs, qui pourraient être prévenues par la mise en place de ces voies au niveau des membres supérieurs. L'isolement bactérien, qui est une contre-indication relative, car on peut très bien désinfecter la machine avant et après la sortie du box, mais ça nécessite un peu plus de temps. La présence d'une dérivation ventriculaire externe, c'est un tuyau qui est branché, entre guillemets, au niveau des ventricules et cérébraux, et celle-ci peut être ajustée par l'infirmière. La présence d'une fragilité cutanée, qui peut être prévenue par la mise en place de protections cutanées. Et enfin, un manque de ressources humaines ou des difficultés d'organisation du service ou un nombre de cycloergomètres insuffisant qui peut être pallié par la majoration du nombre de rééducateurs dans l'unité et plus de cycloergomètres par unité. Nous réalisons également de la verticalisation au lit, comme ma collègue kinésithérapeute parlait tout à l'heure, donc dès le service de réanimation avec des sangles abdominales, ici dans l'unité de réanimation neurologique au CHU Guy de Chauliac. Donc, un de mes collègues, Sylvain Fazio, a réalisé également une étude de faisabilité et de sécurité de l'utilisation de la verticalisation précoce en neuro-réanimation dans la même unité chez 52 patients cérébraux lésés. On avait réalisé 232 sessions en 6 mois avec une moyenne de 4,5 sessions de verticalisation au lit par patient. L'arrêt des sessions dans 9% des cas et pour 26% des patients était lié à un état d'agitation dans 43% des cas, ce qui est assez important. Des difficultés d'organisation des soins dans 24% des cas. Une intolérance respiratoire ou hémodynamique dans 19 et 14% des cas. On a également mesuré les paramètres vitaux avant et pendant la séance pour voir si le patient tolérait bien ces séances de verticalisation. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'énormes fluctuations de ces paramètres avec une augmentation de la pression artérielle moyenne de 2,6%, ce qui n'est pas vraiment significatif, une augmentation de la fréquence cardiaque de 3,2 battements par minute, une augmentation de la fréquence respiratoire de 0,8 par minute, et on constatait également une amélioration de l'éveil sur l'échelle de la WIM, qui est une des deux échelles principales de l'élévation de l'éveil, pendant 28% des séances, qu'on n'a pas expliqué particulièrement par la suite. Alors, la marche en réanimation, comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui peut parfois être réalisé, mais qui nécessite une implication de beaucoup de personnel, du matériel spécialisé, et du coup ça nécessite du coup de faire suivre la ventilation mécanique, les perfusions. Au sein de nos services de réanimation à Montpellier, en réanimation respiratoire, on utilise un lève-personne qui est un outil qu'on utilise dans beaucoup de services, qui peut être utilisé chez les personnes un peu moins invalides. Et nous avons également développé la marche en suspension avec le light gate qui nous permet une plus grande suspension des patients et un monitorage, comme vous pouvez le voir sur la dernière photo à droite, on peut faire marcher le patient en mesurant les paramètres vitaux et en s'assurant qu'il tolère bien la séance. Donc on n'a pas encore réalisé d'études sur l'efficacité et le bénéfice que ça peut apporter pour le patient, mais en tout cas c'est bien toléré, il n'y a pas d'événements indésirables lors de ces séances particulièrement. D'autres moyens sont l'électrostimulation neuromusculaire. Le problème, c'est que les paramètres ne sont pas encore bien établis actuellement. On ne sait pas si sur un patient sédaté ou avec des troubles de conscience, on provoque des douleurs. Donc ça reste à définir. L'installation au lit et au fauteuil, comme l'a montré mes collègues, est très importante pour éviter les troubles neuro-orthopédiques. La stimulation cognitive et sensorielle avec nos collègues neuropsychologues, les orthophonistes et tout intervenant. Le développement des moyens de communication, des interfaces cerveau-machine et la mise en place de repères spatio-temporels dans la chambre pour éviter les états d'agitation et de confusion. La rééducation précoce en réanimation est confrontée à des barrières. Le DUB et ses collaborateurs ont relevé 40 études qui retrouvaient 28 barrières à la mobilisation précoce en réanimation. Dans 50% des cas, c'était lié à aux caractéristiques intrinsèques du patient, liées à des instabilités hémodynamiques. Dans 18% des cas, c'était des barrières structurelles avec un manque de ressources humaines et ou techniques. Dans 18% des cas, c'était lié à la culture en réanimation avec une rééducation qui n'est pas prioritaire pour les médecins anesthésistes réanimateurs ou par manque d'habitude. Et dans 14% des cas, c'était lié à des problèmes de fonctionnement du service avec une mauvaise définition des rôles et des responsabilités des différents intervenants. Ces études ont proposé 70 stratégies pour surpasser ces barrières, avec notamment la mise en place de critères de sécurité, des protocoles de mobilisation précoce bien standardisés, une formation interprofessionnelle des rééducateurs et des soignants, une équipe multidisciplinaire dédiée. Principalement, donc la sédation, ce qu'on pourrait proposer pour la sédation, c'est de mettre en place des protocoles avec des fenêtres thérapeutiques, avec des levées de sédation. On pourrait également essayer de mieux planifier les soins et faciliter la mobilisation des patients intubés. Pour conclure, donc la rééducation précoce en réanimation concerne tous les paramédicaux, les médecins et il faut bien sûr inclure l'entourage de la famille. La littérature a montré des bénéfices et une sécurité et une faisabilité de la rééducation précoce en réanimation, mais il y a une absence d'uniformité des prises en charge. Il y a encore de nombreuses barrières à franchir et peu d'études contrôlées et randomisées bien fiables, notamment surtout chez les patients avec une atteinte neurologique initiale. Donc à l'avenir, il conviendra de définir la rééducation précoce standard en réanimation. Donc nous sommes en train de réaliser une analyse des pratiques au niveau national, d'identifier les barrières et développer les stratégies pour les surseoir, de développer des protocoles de mobilisation standard avec des critères de sécurité bien définis au niveau hémodynamique, respiratoire, neurologique, intestinal notamment, et développer des équipes multidisciplinaires dédiées à la rééducation en réanimation avec des staffs réguliers et bien sûr, donc, je vous l'ai dit, mener des études contrôlées randomisées et améliorer le parcours de soins des patients en poursuivant bien sûr la rééducation après le séjour en réanimation. Je vous remercie pour votre attention.
Quelques questions rapidement parce qu'on est en retard sur cette chose un peu nouvelle. Il y a une question là-bas, oui.
Vous voulez parler du manque d'orthophonistes ou de rééducateurs en libéral, madame ? Oui, c'est un problème, et puis même dans les services actuellement, on manque également aussi dans les services, hein, des fois on est confronté à expliquer aux familles que malheureusement on n'a qu'une orthophoniste pour 30 patients, et donc voilà, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail et beaucoup de choses à développer. Il faut, je pense, montrer aux autorités de santé publique, avec nos moyens, les bénéfices qu'on peut apporter aux patients, et leur montrer que si après on rajoutait des rééducateurs dans les services et puis après en libéral, on permettrait d'améliorer la qualité de vie de nos patients. Mais c'est certain qu'il y a un manque important d'intervenants.
Merci beaucoup.